CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Le festival Lettres d'automne ouvrira ses portes le 18 novembre prochain au théâtre Olympe de Gouges à Montauban. Dans le cadre de notre partenariat avec Confluence, nous vous proposons chaque soir une citation d'Albert Camus.
C'est un heureux moment que celui où un homme fait peut retrouver son maître et lui dire toute son affection et sa reconnaissance. Carnet.
Voilà, avec la voix de Maurice Petit, cheville ouvrière de ce festival Lettres d'automne. À qui le tour ? Bonjour, on est jeudi, c'est donc le rendez-vous politique de Kader Youb. Kader reçoit aujourd'hui Jean-Louis Ibre, maire de Bressols. Bonjour Kader, bonjour monsieur le maire.
Bonjour.
Bonjour Rémi, bonjour à tous, bonjour Jean-Louis Ibre, bienvenue sur CFM.
Merci de m'accueillir.
Vous êtes maire de Bressols donc et candidat pour un nouveau mandat. Avant d'aborder avec vous, avant d'aborder Bressols, la commune que vous gérez, un retour sur l'ambiance particulière bizarre dans notre pays en ce moment. Et comment vous, un élu local, vous appréhendez cette situation avec des mouvements sociaux dans tous les secteurs d'activité, la grogne générale qui s'installe, des radars et des portiques écotaxes qui brûlent un peu partout, des extrémistes qui sifflent le président de la République. Une immonde du journal Minute. La liste est longue, bien sûr. Comment cela va-t-il finir pour vous, monsieur Ibre?
Effectivement, aujourd'hui, on vit dans une certaine morosité, qui est liée, bien sûr, au contexte politique général. Un contexte politique qui est compliqué par, bien sûr, une conjoncture économique qui est très défavorable, avec, comme vous venez de le dire, des impôts nouveaux qui arrivent, le gouvernement qui cherche bien sûr à collecter de l'impôt puisqu'il a besoin bien sûr de rétablir tout ce qui est déficits sociaux et autres, mais une conjoncture économique qui est également très touchée impactée par la problématique de l'emploi, l'emploi des jeunes notamment, mais aussi l'emploi, les pertes d'emploi qui sont liées bien sûr aux nombreux plans sociaux que l'on voit tous les jours dans notre pays.
Mais ça justifie, selon vous, cette montée du nationalisme, et je vais plus loin, c'est même plus de nationalisme qu'on parle là, mais plus de racisme, ce qu'évoquait à l'instant Kader?
Non, alors le nationalisme et le racisme, c'est effectivement des comportements qui sont à bannir, qui sont à blâmer, et je pense que le gouvernement actuellement a une attitude tout à fait adaptée par rapport aux comportements et aux affrontements qu'ont vécu Christiane Taubira, qu'ont vécu le président de la République lors des commémorations du 11 novembre. Et effectivement, ce sont des comportements qui sont intolérables et qui doivent être punis. Moi, je m'oppose tout à fait à ce genre de comportement. Pour expliquer ces comportements, effectivement, il y a la crise, tout simplement la crise sociale qui s'installe, qui dure, mais aussi je pense qu'il y a une perte de certaines valeurs, une perte de certains repères.
Lesquels par exemple?
Je sais pas, tout simplement le respect de l'autre, le respect de la fonction du président de la République. Ce sont pour moi des valeurs qui doivent quand même être toujours valorisées, de telle manière que quelque part, quel que soit le président de la République et quel que soit ses... on ne peut pas tout pardonner, bien évidemment, mais dans les circonstances où ça s'est passé lors des commémorations du 11 novembre, c'était tout à fait intolérable. Même s'il y a une crise, même si les bonnets rouges, on peut légitimer quelque part la grogne de certains groupes, mais on ne peut pas admettre que de tels comportements aient lieu dans ce pays. On est en démocratie.
Vous parlez du président, quelles peuvent être les conséquences de ces mouvements, et croyez-vous sincèrement que François Hollande pourra reprendre la main?
Moi, je crois que tous les problèmes qu'il vit actuellement, je pense qu'il y a en François Hollande une grande détermination pour affronter les problèmes, et François Hollande, mais aussi de la part du gouvernement. Donc je pense qu'avec cette détermination, je pense qu'il arrivera à dépasser ces problèmes-là.
Non, soutien total de Jean-Louis Ibre pour le gouvernement et pour le président Hollande.
un soutien, pas forcément un soutien total, parce qu'effectivement il y a certaines mesures qui sont pas forcément aujourd'hui bien vécues par l'ensemble de la population.
Hein. Oui, on va en parler. Vous voulez parler peut-être des baisses des dotations aux collectivités, la pression fiscale qui s'accentue. Mais on va parler aussi de en seconde partie de ces éléments. Mais on reste encore un petit peu sur le chapitre national. Vous êtes un élu de terrain, Monsieur Ibre. Comment, selon vous, relancer la croissance, créer de l'emploi? Comment créer de l'emploi quand on est ici dans des territoires ruraux encore?
Alors. Comment créer de l'emploi? C'est vrai que c'est si on savait d'un coup de baguette magique créer de l'emploi, ce serait simple. Les gouvernements l'auraient fait depuis très longtemps. Mais effectivement, aujourd'hui, le contexte de l'emploi, il est quand même très pollué par le contexte actuel, qui fait que il est très clair, hein, que les actionnaires aujourd'hui exerce une pression très forte sur les entreprises pour entraîner des délocalisations, hein, pour aller chercher des coûts de travail beaucoup moins importants. Et on voit donc on a vécu des délocalisations vers les pays de l'Asie du Sud-Est notamment, hein. On voit qu'aujourd'hui ces délocalisations, elles se poursuivent vers l'Afrique, le Soudan, etc., pour aller en quête de main d'œuvre toujours moins chère. Et donc quelque part, on voit que là, les politiques perdent une partie de leur maîtrise, hein, par rapport à l'emploi. Donc effectivement, je pense que c'est une très très grande difficulté pour les politiques d'agir sur l'emploi.
Mais il y a un rapport compliqué qui est sorti aujourd'hui même de l'OCDE qui dit que par exemple la France est le pays où on travaille le moins en Europe et où le travail est le plus cher, c'est-à-dire que le SMIC serait trop cher. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, on vit avec notre histoire, hein. On vit avec notre histoire et nos acquis sociaux, hein. Et effectivement, le coût du travail, effectivement, peut être élevé. Mais dire que c'est le pays où le coût du travail est le plus élevé, moi, je ne suis pas à mesure de bien le mesurer.
Vous pensez que le SMIC est trop,
cher? Non. Honnêtement, très, très, très sincèrement, non. Et dire que c'est un pays où on ne travaille pas, je pense que ça c'est absolument faux, parce que on sait très bien qu'il y a des gens qui sont très qualifiés d'abord dans ce pays et qui travaillent des heures, qui font des heures, et on sait aussi que aujourd'hui la main d'œuvre française a un rendement qui est tout à fait comparable à beaucoup d'autres pays, si ce n'est meilleur que dans d'autres pays.
Êtes-vous un homme de gauche, Jean-Louis Ibre?
Oui.
Vous êtes un homme de gauche. Oui. Quelle est votre conception de la gauche aujourd'hui?
Alors, ma conception de la gauche, c'est tout simplement, actuellement, c'est très difficile de se situer politiquement, hein, parce que c'est vrai qu'on a vécu, pendant le dernier mandat sous la droite, et bon, avec le contexte qui était le même qu'actuellement, on avait beaucoup d'espoir, bien sûr, dans le changement. Hein. On disait le changement, c'est maintenant. Aujourd'hui, on voit que le changement, il est très difficile à s'opérer, hein, et que les gouvernements ont beaucoup de difficultés à faire passer les réformes, tout simplement. Hein. On l'a vu pour le mariage pour tous. Hein. On le voit pour la réforme des rythmes scolaires actuellement, pour l'écotaxe. On voit que c'est un pays qui est très difficile à réformer, tout simplement. Et que ce soit avec des gouvernements de droite ou de gauche, tout simplement. Hein. On voit que c'est très difficile. Donc l'homme de gauche, il a un discours de gauche avec un état un peu dubitatif par rapport à la capacité qu'on va avoir à faire les réformes nécessaires à rendre ce pays plus compétitif pour justement pouvoir être compétitif au niveau, bien sûr, économique surtout, et en matière de création d'emplois.
Jean-Louis, on va marquer une courte pause, un peu de publicité, et puis on revient dans le rendez-vous politique avec Kader Youb dans un instant.
CFM à Montauban. 101.2.
Vous êtes bien arrivé en gare de Montauban, lettre d'automne. D'étonnants voyageurs de la compagnie Champs Libres vous attendent dans la salle des pas perdus. Mais vous n'y perdrez pas votre temps, car danseuses, accordéonistes, chanteuses murmureront les histoires envoûtantes du festival Lettres d'automne le vendredi 15 novembre de 6h à 9h. Profitez de cette escale littéraire et gourmande offerte par la SNCF et l'association Confluence. Vendredi 15 novembre, de 6h à 9h, le café du matin aura un parfum bien surprenant. Renseignements sur confluence.org.
Le grand rendez-vous annuel du Salon des vins et produits régionaux de Moissac, organisé par les Amis de l'île au Caillavet, c'est au Hall de Paris les 23 et 24 novembre. Préparez vos papilles, venez déguster les fabuleux vins et produits de nos régions. Toute la journée des animations et de nombreux lots offerts par les producteurs sont à gagner. Le 14e Salon des vins et produits régionaux de Moissac, ambiance garantie, les 23 et 24 novembre. Entrée gratuite de 9h à 19h. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
La MJC de la Bastide Saint-Pierre vous propose toute l'année une multitude d'activités pour tout public. La MJC de la Bastide, c'est aussi des spectacles et une programmation culturelle riche. Avec la salle de spectacle MJC La Négrette, divertissez-vous tout au long de l'année grâce à la musique, la danse, les marionnettes ou encore le théâtre. Renseignements et réservations à la MJC ou sur mjclabastide.com. Samedi 16 novembre à 20h30 à la Négrette, la MJC de la Bastide vous propose le duo Soham, une voix, une guitare, un univers de chansons françaises harmonieux.
CFM à Castelsarrasin. Castelsarrasin. 90.7. 90.7.
Le rendez-vous politique avec Kader Youb aujourd'hui, c'est le maire de Bressols en Tarn-et-Garonne. C'est Jean-Louis Ibre qui est l'invité de Kader.
Oui, Jean-Louis Ibre, un mot sur la réforme territoriale. Quelles sont vos principales préoccupations?
La réforme territoriale, effectivement, c'est une réforme d'abord qui est nécessaire, hein, bien sûr, mais qui là aussi, comme je le disais tout à l'heure, comme toutes les réformes qu'on essaie de mettre en place dans ce pays, il y a beaucoup de difficultés, et pourtant elle serait vraiment nécessaire. Il est vrai que la décentralisation était une étape importante, et aujourd'hui, on sent bien que, effectivement, en matière de collectivité territoriale, il y aurait effectivement encore à aller beaucoup plus loin. Nous ressentons ce besoin, mais nous le ressentons des fois d'une manière un peu négative aussi, hein, parce qu'il y a souvent, au travers de ces réformes, des compétences qui nous sont octroyées, qui étaient portées par l'État ou par ou autre, et ce qui fait que ça aussi, ça rajoute souvent des surcroît de coûts de fonctionnement aux collectivités locales. Donc,
avec un transfert
des compétences, bien sûr.
Des compétences, mais des fonds qui ne sont pas
forcément automatiques, effectivement.
Bon. Oui. Et au niveau du Grand Montauban, ici, pour parler de ce qui nous concerne à vous, est-ce que vous avez des difficultés avec le Grand Montauban et la métropolisation?
Alors, notre adhésion au Grand Montauban remonte à 2010 aujourd'hui. Hein. Cette adhésion, nous l'avons anticipée, puisque, vous le savez, les communes, hein, toutes les communes devaient être dans une PCI, dans une structure intercommunale, à partir de décembre 2013. Hein. Nous l'avons anticipée, pour quelle raison? Parce que, tout simplement, nous étions certains, hein, d'être obligés d'entrer dans une structure intercommunale alors que nous étions une commune isolée. Nous savions aussi que nous allions être confrontés à la modification et à la réforme de la taxe professionnelle, hein, une taxe professionnelle qui était importante, hein, sur le budget communal de Bressols. Et si nous avons anticipé cette intégration, c'est tout simplement pour préserver notre TPE, hein, puisque vous le savez, lorsque nous intégrons une structure intercommunale, nous gardons l'intégralité de notre TPE à l'année N-1, ce qui fait que l'intégration en 2010... Hein, en amont de la réforme de la taxe professionnelle, nous a permis de conserver l'intégralité de notre taxe professionnelle. Donc, si vous voulez, pour nous, ça a été une aubaine, d'autant que, si vous voulez, ça nous a permis également de bénéficier de services, je dirais, complémentaires, hein, des services du Grand Montauban. Hein. Donc, notamment en matière d'élimination des déchets, puisque nous avions une déchetterie qui était devenue obsolète et il fallait qu'on construise une déchetterie. On a pu bénéficier de la déchetterie du Grand Montauban. Au niveau de l'école de musique, du conservatoire, on avait une petite école de musique à Bressols. L'intégration à Montauban nous a permis d'avoir accès au conservatoire de Montauban. On voit qu'aujourd'hui, notre école de musique a explosé. En matière de voirie, on a une clé de répartition qui nous permet de faire des investissements et des entretiens de voirie beaucoup plus importants que ce que l'on réalisait avant. Donc, si vous voulez, il y a sur bien des points, quelque part, l'intégration au Grand Montauban a été très bénéfique aux Bressolais, qui d'ailleurs ne l'ont pas senti passer, puisque fiscalement ça a été transparent. Et ensuite, en matière de services rendus à la...
Ça sera transparent dans les années à venir, au niveau fiscal, pour les Bressolais par exemple?
Aujourd'hui, la répartition...
Certains élus de l'opposition ici à Montauban fustigent ce fonctionnement qui a reporté la dette de Montauban sur le Grand Montauban. Au risque de vous endetter à vous, petite commune qui forme l'intercommunalité.
Alors, cela n'a pu se faire que dans le cadre des compétences qui étaient transférées à l'agglo, hein, ce qu'il faut se dire. Hein.
Donc,
aujourd'hui, il ne me paraît pas du tout blâmable d'avoir transféré des compétences qui pouvaient l'être. Hein. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, si vous voulez, j'en reviens à l'intégration de Bressols au Grand Montauban, c'est que il y a aussi dans cette intégration l'apport que peut faire Bressols à la communauté d'agglomération, et notamment une zone industrielle déjà bien développée, mais à développer, avec une situation très favorable compte tenu du fait qu'elle se trouve tout près du péage autoroutier au croisement de la 20 et de la 62. C'est une position stratégique, hein, et qui nous permet donc d'offrir quelque part à l'agglomération des capacités de développement économique considérables.
Et d'être demain, la future gare de la LGV.
La future gare de la LGV.
Alors là, vous apportez de l'eau à mon moulin.
Vous allez être courtisé dans les mois, dans les années à venir, Monsieur Ibre, on dit que Bressols va devenir énorme, riche, avec des entreprises qui vont venir s'installer, une gare LGV flambant neuve. Est-ce que ça vous fait pas tourner la tête, et comment vous l'appréhendez, comment vous anticipez ce changement?
Je crois que effectivement c'est une chance pour Bressols, et c'est une chance aussi pour le territoire, hein, de l'agglomération. Est-ce que ça me fait tourner la tête? Non. Non, parce que je pense que c'est un défi qui s'offre à nous, et avec des enjeux de développement considérables. C'est effectivement un territoire où se cristallise la capacité à développer à faire du développement économique sur le plan industriel, mais aussi en matière de tertiaire, etc. Tout ce qui va pouvoir se passer autour de la gare, c'est en effet un atout considérable pour notre territoire.
Mais comment l'anticipe?
Alors,
des entreprises,
comment on l'anticipe, effectivement.
Vous allez être vent debout contre certains aménagements de RFF, Réseau Ferré de France.
Alors, effectivement, nous avons eu, lors des transactions, hein, qui ont eu lieu avec RFF, Réseau Ferré de France, nous avons été confrontés.
Il a fallu se battre.
Il a fallu se battre
vous,
parce que, effectivement.
Vous votez encore?
Oui. Ah oui, bien sûr, oui.
Parce que
tout n'est pas réglé.
Il faut rappeler
tout n'est pas
que RFF, vous n'étiez pas d'accord avec le tracé qui était proposé
tout.
Par RFF, qui proposait de faire une espèce d'immense mur au milieu de Bressols, et vous vouliez que le tracé passe en suivant
la 62.
Voilà. Oui, la 62, pardon.
Alors nous n'étions pas d'accord avec RFF, et nous ne sommes pas aujourd'hui encore. Par rapport au tracé qui nous a été infligé, hein, je veux dire, nous, on avait imaginé un tracé qui, dans l'inconscient collectif de tout le monde, d'ailleurs, se situait le long de la 62, hein, avec beaucoup moins d'impact sur les maisons, et aussi avec une proximité de l'autoroute qui aurait permis un lien beaucoup plus facile avec la 62. Il suffisait de faire un échangeur. Hein. Bon. Aujourd'hui on aura l'échangeur à faire, mais on aura aussi des voiries structurantes à réaliser pour la desserte de la gare. Donc quelque part, nous avions raison. Ceci étant, nous avions raison, mais nous avons été confrontés à l'opposition des autres villages, des villages comme la Bastide de Saint-Pierre, comme Campsas, comme Montbeton ou la Cour Saint-Pierre, même et Montech, hein. Donc, si vous voulez, on n'a pas effectivement réussi à faire passer l'autoroute où nous le souhaitions. Ceci étant,
est-ce que vous êtes finalement rangé à cette décision, même si vous la partagez pas
et
si vous
non, non, je la partage pas et c'est moi j'en garde une certaine amertume
et
effectivement.
Le tracé a été changé aujourd'hui ou pas?
Voilà, le tracé a été changé effectivement et il passe au, il coupe Bressol effectivement, il partage Bressol d'une manière qui est tout à fait défavorable.
Ah donc il a pas été changé par rapport à ce que vous ne vouliez pas au début, il est resté au même endroit.
Oui.
D'accord.
Bon, et là, il y aura des entreprises, des habitants qui vont être, si je puis dire, délocalisés, en tout cas expropriés par
RFF. C'est en effet un gros chantier pour le maire de Bressol.
Oui, alors comment,
une préoccupation considérable, parce qu'il faut que vous sachiez...
Il y a un risque que l'entreprise parte finalement et qu'elle...
Alors, il faut que vous sachiez que c'est 35 maisons, hein, 35 habitations... qui sont concernés par le passage de la LGV, et 10 sites industriels. Hein. Donc, c'est pour le maire de Bressol et pour le conseil municipal une préoccupation importante, parce que nous avons à répondre d'abord au préjudice que vont subir nos administrés, hein, au préjudice moral, hein, et au préjudice matériel. Hein. Comment aller expliquer... au grand-père de 80 ans qui vit dans la ferme de ses arrière-grands-parents depuis des générations et qui toute la famille a habité là depuis des générations, comment lui expliquer que sous prétexte qu'on va pouvoir aller de Bressol à Paris en 3 heures, eh bien, il faut lui piquer la ferme. Allons lui expliquer ça. Hein, voilà. Donc, ensuite, il y en a aussi le problème des installations industrielles, hein, ou commerciales qui sont situées pour beaucoup en vitrine de l'autoroute et qui ont une valeur considérable qui vont être détruites. Et aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de pouvoir donner à ces entreprises la capacité, puisqu'elles le souhaitent, de rester sur Bressol et de rester, si possible, dans les conditions qu'elles connaissaient avant.
Où ça? Ça fait des...
Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous avons lancé la révision de notre PLU. C'est grande partie à cause de ça, hein. C'est pour pouvoir répondre aux besoins des personnes qui sont expropriées, qui sont privées de leur maison, mais aussi aux industriels qui sont privés de leur outil de travail. Où ça? Eh bien, tout simplement, le PLU en révision va nous permettre de débloquer des zones qui, avec l'accord de l'État, qui s'y est engagé, avec l'accord de l'État, qui vont pouvoir permettre de répondre à ces besoins.
Est-ce que c'est dans la campagne municipale qui s'engage là, à Bressol, un enjeu important? Est-ce que c'est un enjeu délicat dans la campagne municipale, cette LGV, monsieur le maire?
C'est un enjeu important, puisque effectivement... mon opposant politique qui vient de se déclarer...
Daniel Donadieu.
Oui, en fait son cheval de bataille. D'ailleurs, je regrette qu'il n'en ait pas fait son cheval de bataille plus tôt et qu'il ne soit pas venu aux côtés de nous quand il fallait aller manifester à la préfecture ou quand il fallait se positionner plus clairement par rapport au mode de passage, etc. Bon, il n'était pas sur Bressol, c'est sûr qu'il pouvait pas venir nous donner un coup de main. Hein. Il a été absent pendant 6 ans, donc il n'était pas question de pouvoir compter sur lui. Mais je regrette qu'aujourd'hui, où je le trouve beaucoup plus zélé que pendant les 6 ans passés, parce qu'aujourd'hui, semble-t-il, il aurait bousculé toutes les montagnes et il aurait obtenu beaucoup plus de choses que ce que nous avons obtenu. Ceci étant, moi, je veux pas... c'est un enjeu de campagne, mais je voudrais rappeler quand même que cette LGV, ce n'était pas dans mon projet politique et dans ma profession de foi de la dernière campagne électorale. Nous la subissons puisqu'elle nous est imposée, puisque c'est un grand chantier. Ceci étant, je suis quand même très favorable à la LGV. Hein.
Ah oui, mais, vous êtes favorable à la LGV.
Mais il n'y avait pas que ça, si je puis me permettre, monsieur Donadieu, votre principal opposant. Hein, on ne sait pas s'il y aura d'autres listes qui sont en concurrence avec vous. Mais en tout cas, il reprochait aussi à Bressol d'avoir finalement vendu son âme à la métropole, enfin à la communauté de communes.
Oui, effectivement. Il nous reproche d'avoir vendu notre âme à la communauté de communes. Bon, c'est normal quand on est dans l'opposition qu'on s'oppose bien sûr systématiquement à tout ce que va faire son adversaire politique. Hein. Ça, je peux l'admettre. Mais je voudrais quand même qu'on réfléchisse à un postulat fondamental, qui est pour moi la cohérence de territoire. et la cohérence de territoire quand on est à 5 kilomètres d'une ville comme Montauban. Est-ce que il était plus judicieux d'aller vers la communauté de communes de Montech ou d'aller vers la communauté de communes de Bressols, Grisolles, Villebrumier, avec des communes comme Varennes qui sont distantes de 30 kilomètres de chez nous, ou Pompignan. Enfin, il me semble que la cohérence de territoire et la géographie nous ont imposé de venir d'entrer dans cette communauté d'agglomération. Donc cette logique-là, je pense qu'elle est imparable. Hein.
Le transfert éventuel du PLU vers le GMCA, le Grand Montauban, est-ce que ça vous inquiète, et finalement qui amènerait de l'eau au moulin de votre opposant?
Alors, aujourd'hui, nous révisons notre PLU.
Oui. Hein,
c'est la commune de Bressols seule qui révise notre PLU. Seule, c'est pas tout à fait vrai, hein, puisque effectivement, il y a une partie de notre commune qui va être concernée par la gare. Hein, et donc, il va y avoir un projet urbain autour de la gare qui va s'intégrer à notre PLU. Oui. Mais elle se fera sous notre maîtrise.
Pleine et entière.
Pleine et entière, tout à fait, oui.
Ben, on arrive presque au bout. Moi, je voulais juste raccorder deux infos nationales au local et demander à monsieur le maire ce qu'il en pensait. Alors, on en a déjà parlé dans la première partie, mais il y a beaucoup de manifestations. Il y en a qui titrent sur leur une, le peuple gronde. À Montauban, demain, la FDSEA et les jeunes agriculteurs du Tarn-et-Garonne manifesteront à 10h30 sur le parking de la FDSEA. Donc ça, c'est directement l'actualité nationale qui va se voir ici en Tarn-et-Garonne. Et puis l'autre actualité, celle du racisme, qui va être mise en lumière aussi ici par la visite de François Lamy, le ministre de la Ville, qui va venir à Castelsarrasin demain à 15h pour commémorer cet acte ignoble qui s'était passé en 83, quand, je ne me rappelle plus son prénom, avait été défenestré. C'était un crime raciste. Voilà, je voulais avoir vos réactions sur ces deux petits événements qui vont se passer en Tarn-et-Garonne demain.
Alors, effectivement...
Qui sont différents.
Oui. Qui sont tout à fait différents, oui. La problématique des agriculteurs, c'est vrai qu'il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, le monde agricole, et notamment les jeunes agriculteurs, sont en proie de nombreuses difficultés, il faut bien dire. Et donc, quelque part... je crois que cette manifestation, si elle se passe dans le calme, si elle est pacifique, eh bien, je pense qu'elle a une certaine légitimité et que le gouvernement, bien sûr, sera bien inspiré d'entendre les agriculteurs.
Merci Jean-Louis Bray.
Non, mais il nous reste 10 secondes pour la visite de François Lamy.
Oui. Alors, effectivement, concernant la visite de François Lamy, moi, je crois que il faut vraiment que nous soyons très vigilants par rapport à tous les actes auxquels on est spectateur aujourd'hui, et que quelque part on ne banalise pas ces actes-là. Je crois que l'exemple que nous avions connu effectivement en 83 était vraiment un événement très très fort et très lourd. Ce que nous venons de vivre vis-à-vis de Madame Christiane Taubira est aussi une objection, et je pense qu'il faut vraiment s'opposer.
Merci Jean-Louis Ibre, maire de Bressols, invité de Kader Youb dans le rendez-vous politique. Merci Kader.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
CFM, il est 17h30.
CFM. CFM.
Info. CFM. Les infos.